Shiur qui soit pour la réfoua Shima tous les Cholam Israël et qu'on puisse mériter Bekram Mach la vie de Machia Tzitkenu Bimirabamenu Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je voulais partager un petit peu avec vous ce soir quelques paroles d'Emouna, comme on a commencé un petit peu la semaine dernière, et cette fête est la fête de la Emouna, Chag Emouna, Chag Geoula. On doit se renforcer beaucoup dans ces domaines. Et Rabbi Yechezkel Levinstein disait justement que c'est la façon avec laquelle on va se préparer pendant ces fêtes de Pessah. Elle va nous permettre d'avoir des forces de Emouna pendant toute l'année. Et ça, il faut beaucoup qu'on soit conscient de ça pour remplir les batteries, pour pouvoir sortir la derrière. Et notamment dans les moments tellement difficiles qu'on est en train de passer ces derniers temps, HaKadosh Baruch Hu, il appelle véritablement à ce qu'on soit mitrazek dans la Emouna, dans le Bitachon, avec tout ce qu'on voit. Et donc, on n'a jamais assez parlé de ces Emouna et de ces Bitachon. Vous voyez, pour commencer, vous rapporter quelques paroles d'un ami à moi, le Rav Ben Shmuel chez Yichye, avec qui je m'entretenais tout à l'heure, qui me rapportait les paroles du Rav Chaim Vital, le fidèle élève du Hari HaKadosh, du Harizal, qui nous dit qu'en temps de Magepha, quand on passe les temps d'épidémie et de pandémie, comme on est en train de passer ces derniers temps, il faut qu'on se renforce dans des domaines qui sont relatifs à la première des choses, être Tamid Besimcha, toujours avec la joie. Comme ça c'est marqué là-bas dans Raphaël Vital, être Besimcha, c'est quelque chose qui nous protège de toute cette Magepha. Comment faire pour ne pas être touché par la Magepha? Si quelqu'un il ressent une Simcha Atsuma à tous les moments, à tous les instants, il ressent que toujours il est Besimcha, c'est comme un bouclier protecteur qui vient autour de lui et qui empêche, à la manière de la Kippa de Barzel, du dôme d'acier, qui intercepte les missiles, ça intercepte tous les virus, toutes les avérotes, toutes les choses négatives, et ça brise tous les dinim. On connaît la force incroyable de la Simcha, et bien sachez qu'en ces temps de pandémie qu'on est en train de passer, aussi paradoxal que cela puisse paraître, et c'est pas facile parce que c'est proche d'avoir, comment faire pour pouvoir arriver à être Besimcha dans une situation aussi tragique et aussi difficile? On en parlera de l'attachement pendant le shiur. Mais on nous dit que si jamais on arrive à ressentir une Simcha profonde, alors on est protégé, on a ce bouclier protecteur qui nous garde et qui nous protège et qui empêche les maladies de nous atteindre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut faire dans ce temps de pandémie, disait le Rav Chaim Vital, l'oïchas. L'oïchas, ça veut dire qu'on ne doit pas se mettre en colère. On sait que c'est marqué dans la Gemara, kol akoes, kol mineh geinam sholtimbo, tout celui qui se met en colère, tous les geinam, les sortes d'enfer, elles peuvent avoir prise sur lui. Et c'est marqué à Koes qui l'ouvre d'Avodazara, celui qui est Koes qui se met en colère, c'est comme si un serviteur des idoles. Plus on a la Shekhina avec nous, plus on a la Emouna, et moins on se met en colère. La colère à Botaï, c'est l'inverse de la Emouna. Si quelqu'un, il est en colère, ça veut dire qu'il oublie qu'Akadosh Borou, c'est le Melech Haolam, c'est le maître de l'univers, que c'est lui qui dirige tout, c'est lui le patron du monde et le patron de l'univers. Si jamais on se met en colère, c'est qu'on oublie qu'Akadosh Borou, c'est lui le chef et qu'il n'y a personne qui dirige à part lui. Donc ça, c'est la deuxième des choses qu'il faut faire, ne pas se mettre en colère, toujours garder le contrôle de nous-mêmes, ne pas se mettre en colère aussi par rapport à si vous voulez bien couper les micros, mes amis, puisque la misère. Ne pas se mettre en colère aussi de la situation qu'on est en train de passer. Et c'est pas facile, Akadosh Borou, il nous a vraiment mis à l'épreuve. On se trouve dans un confinement, je leur disais tout à l'heure à Metal Midi, Malaïchiva. Mais ça vaut, j'ai l'avoir, on est tout le temps avec les mêmes personnes. D'habitude, quand quelqu'un il nous prend un peu la tête, alors on peut commencer à aller prendre de l'air, à respirer. Là, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit d'aller voir quelque chose d'autre, d'aller voir un petit peu d'autres personnes, d'aller se changer un petit peu les idées. On se retrouve toujours avec les mêmes personnes, et c'est pas facile. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprenne à vivre avec les cris, avec les enfants, avec la cacophonie, avec là-bas le taras, comme on dit chez nous. Et tout ça, on doit le vivre encore une fois, Besimcha, et sans se mettre en colère. La troisième des choses qu'il faut faire attention, de la même façon qu'il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas mettre en colère les autres. L'oïrgaz. Ne pas mettre en colère les autres personnes. Donc faire attention, comme quand on est dans une cocotte minute. On sait que quand il y a là-bas du feu, alors ça nous chauffe à nous et ça chauffe aussi les autres. Et bien de la même façon, il faut faire très attention de ne pas mettre en colère des personnes, de ne pas être une embûche devant les aveugles, comme c'est marqué dans la Torah, l'Ifneiver, l'Otitel Mirchol, tu ne mettras pas une embûche devant un aveugle. C'est un lave, c'est un commandement négatif de la Torah qu'il faut se garder, se prémunir avec toutes nos forces. Donc comme on est dans un petit périmètre, qu'on est toujours avec les mêmes personnes, encore une fois, il faut redoubler d'efforts dans la relation par rapport au prochain. Ben Adam Lachavero, comme on avait expliqué, la relation à l'alter ego et à autrui, on en parlera peut-être encore une fois cette semaine, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, notamment avec le deuil des Talmidim de Rabbi Akiva qui ont péri dans l'épidémie terrible qui a emporté ces 24 000 élèves qui étaient les tzadikim sur lesquels le monde entier reposait. Et si on a commencé la Sfirat HaOmer, on est aujourd'hui, moi je peux vous le dire, mais peut-être vous n'avez pas encore compté, vous compterez tout à l'heure, on est aujourd'hui le 4e jour du Omer. Donc Baruch HaShem, si nous on a commencé, c'est Omer là qui vient commémorer justement la disparition des Talmidim de Rabbi Akiva, et que ça intervient justement au milieu de cette pandémie, c'est aussi pour se rappeler qu'il y a une similitude entre ce qu'on passe aujourd'hui et comment sont morts les Talmidim. La Gemara nous dit dans Masechet Yevamot, Daf Samer Bet, chez Lonagou, Kavod, Zelazé, ils ne sont pas suffisamment respectés et honorés les uns les autres. Ils n'ont pas été suffisamment samer du bien du prochain. Au lieu de se réjouir du bien de l'autre, ils étaient envieux, ils avaient un œil qui était négatif. Même dans les livrets Torah, c'est marqué Aïn, Sarab et Torato Shel Chavero, ils avaient un mauvais œil sur la Torah de leur prochain. Et ça, Rabotai, bien sûr, quand on est dans une relation à autrui, de la même façon que nous, on ne doit pas se mettre en colère, on ne doit pas mettre en colère les autres. Et le dernier élément qui nous demandait le Rabbi Chaim Vital, c'est le fait de mitpalel bedmaot, le fait d'être capable de prier avec des larmes. Alors ça, il faut savoir que c'est assez ambigu. Et d'ailleurs, cette question avait été soulevée par les élèves la semaine dernière quand on avait fait le shiur. Comment peut-on être à la fois besimcha et à la fois verser des larmes? Ça a l'air d'être deux choses qui sont antagonistes et qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Soit on est besimcha, soit on pleure. Mais comment peut-on simultanément pleurer et simultanément verser des larmes? Alors il faut savoir que pour pouvoir comprendre ce paradoxe, il faut apporter une Gemara, une Mishnah dans Masechet Brachot, au 5e chapitre, nous dit Daf Lamed, En omdim leitpalel mitor koved rosh, chassidim arishonim ayoshoin shachat kedeshei kavenu libam leaviem shebashamayim. On ne se tient pas pour faire la prière, pour faire la Amida, si ce n'est qu'on a la tête lourde. Les premiers chassidim, ils se préparaient pendant une heure avant de commencer à verser leur cœur devant Akadosh Baruch Hu, et ils se devaient d'avoir la tête lourde. Qu'est-ce que veut dire la tête lourde? La Gemara nous demande justement ce yesod, en quoi il faut avoir un casque de motard, il faut avoir une Harley Davidson. Ça veut dire quoi, Rabotai, avoir la tête lourde? Il faut avoir un boulet autour du cou. Rabotai, la tête lourde, ça veut dire qu'en fait, on doit avoir la soumission, la achna'a. Et la Gemara s'interroge. D'où apprenons-nous qu'on doit avoir la tête lourde? Il y a plusieurs essais qui sont apportés, de David Ameller, de Chana. Plusieurs essais sont apportés jusqu'à ce qu'on arrive à un pasouk. Le pasouk nous dit Ivdu et Hashem besimcha de Giloui Berada. Servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie mais dans le tremblement. Alors la Gemara demande de Giloui Berada, comment on peut être à la fois dans la joie et à la fois dans le tremblement? Ah, mon frère. Comment on peut être à la fois dans la joie et dans le tremblement, Rabotai? C'est difficile. Il doit être Hashem besimcha begilu berada. On n'arrive pas à comprendre ce paradoxe, encore une fois. Rabotai, on doit être dans la joie, mais à la fois dans le tremblement. Et ce qu'il faut ressentir comme joie dans les temps difficiles qu'on est en train de passer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de se dévoiler dans le monde. Il y a une idgalut de la Shekhina qui est extraordinaire. On revient au temps où Akadosh Baruch Hu se dévoilait au monde comme il s'est dévoilé au moment de la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu a montré que c'était le patron qui faisait là-bas la loi dans le ciel, dans la terre, dans l'espace, dans les océans, dans les eaux, avec les bêtes féroces, avec les makotes. Akadosh Baruch Hu a montré qu'il dirigeait toute la création et toute la bria. Et là, de la même façon, il y a une idgalout de la Shekhina qui est extraordinaire et sans précédent depuis 1950 ans. On a déjà dit qu'Akadosh Baruch Hu, il était dans le Ester Panim depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. On vivait dans le Astur et Shevetor Astur, dans l'obscurité, la face cachée, l'obscurité la plus profonde. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu et qui s'est dévoilé. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu et qu'il a arrêté le monde. Akadosh Baruch Hu a dit au monde, on ne peut pas continuer à vivre comme nous on a décidé. C'est moi le maître de l'univers. Akadosh Baruch Hu, il a claqué des doigts avec un petit microbe qui est microscopique, qu'on ne voit même pas. Un petit microbe qui fait un 500e d'un grain de poivre. Et c'est ça qui a paralysé tous les géants du monde. Où sont les États-Unis d'Amérique? Où est Scotland Yard? Où sont Rabotai les plus grandes armées du monde? Où sont là-bas les grands professeurs? Où sont là-bas tous les patrons des universités? Tous les gens qui se pensaient être les pontes des hôpitaux? Personne n'a le remède. Personne ne peut canaliser cette pandémie qui est en train de faire des ravages. Akadosh Baruch Hu, il regarde dans le ciel et il dit Ani Melech Haolam, c'est moi le maître de l'univers. Ubiladi En Efes Zulato, à part moi, il n'y a personne. Abudai Akadosh Baruch Hu, il est venu nous montrer que c'est lui le chef, que c'est lui le maître de l'univers et que personne ne peut faire quoi que ce soit si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé cette chose-là. Ça, Abudai, c'est un Yesod et un Moussaraskel qu'on doit ressentir au fond de nous-mêmes et qui doit être le centre de tout le message qu'Akadosh Baruch Hu veut faire passer au monde. Akadosh Baruch Hu a mis à genoux les géants du monde. Où est passé le G7 ou le G8 ou je ne sais plus comment on les appelle, ceux-là, je ne sais même pas comment ils sont là-bas, on n'entend plus parler de personne. Kadosh Baruch Hu, il est en train de dire au monde entier, il les a mis à genoux, en claquant d'un doigt, sans se montrer. Je vous dis une chose, Metzadikim, qui aurait pu penser une chose pareille? Il y a un mois ou un mois et demi, si quelqu'un avait dit que le monde entier serait paralysé, que personne ne pourrait bouger, les gars, ils l'auraient enfermé dans un asile de fous. Dans l'OCDE, l'Organisation du Commerce et du Développement Européen, dans l'espace économique européen, dans les accords de Schengen, dans toute l'Europe sans frontières, dans le monde où on peut avoir avec un billet d'avion, on peut aller d'un bout à l'autre du monde. Les gens qui ont les milliards là-bas, ils sont où, Rabotaï? Où sont passés tous ces gens? Comment peut-on faire pour pouvoir utiliser aujourd'hui nos biens puisque l'argent n'a plus de valeur? Les gars, ils sont bloqués, les aéroports du monde entier sont fermés. Même avec tous les milliards du monde, on ne peut plus rentrer en Eretz Israël pour l'instant. Il y a beaucoup de pays qui sont fermés. On ne peut plus aller nulle part. On n'a pas pu aller se rendre chez nos familles et chez nos proches pendant la fête de Pessah. La Kadosh Baruch Hu, il a montré au monde entier « Ani Melech Haolam, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Lolam Vaed. » Et ça, c'est une joie extraordinaire qu'on doit ressentir. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il est en train de se dévoiler au monde. À Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer qu'il est en train d'accomplir les dernières étapes avant la venue du Mashiach Tzidkenu. On avait dit que c'était l'effondrement de Malchut Edom. Tous les gens qui disent c'est moi qui vais dominer, c'est moi qui vais diriger, c'est moi qui dirige le commerce international, c'est moi qui dirige les échanges internationaux, c'est moi qui dirige l'ONU, c'est moi qui dirige là-bas le lobbying. Tous les gens à Boutaï se sont mis à genoux, ils sont à plat ventre aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu. Il a effondré complètement tout le système. Et on sait très bien que quand le système d'Edom s'effondre, ça veut dire que le Mashiach Tzidkenu il est aux portes. La reine, en connaissance de cause, c'est de ça que doit venir cette joie profonde qu'Akadosh Baruch Hu est en train de se dévoiler dans le monde. Akadosh Baruch Hu est en train de faire cesser tout ce yesod de Kochi Yotse Miyadi Oset Achayil Azeh. C'est la force de mes mains, la force de mes poignets qui est en train de faire la pluie et le beau temps. Akadosh Baruch Hu leur dit, c'est pas vous qui faites quoi que ce soit. C'est moi le patron. Vous qui avez voulu me remplacer. Vous qui avez voulu vous passer de moi. Vous qui avez pensé qu'on pouvait faire un monde sans Akadosh Baruch Hu. Ben on vous montre que si jamais on vit sans Hachem, le monde y retourne au tohu bohu. Le monde y retourne à la paralysie. Le monde y retourne à Bodaï avant tous les progrès de la télécommunication et de toutes les choses incroyables qu'ils ont pensé faire et dont ils ont pensé pouvoir se servir pour pouvoir se passer du Créateur. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il restaure son kavod. Et le fait donc qu'il restaure son kavod, c'est ce qui doit nous procurer cette joie intense qu'on peut se rapprocher de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue pendant cette pandémie. On doit essayer de réfléchir au maximum, comme disait le Rosh Yeshiva de Tifra. Le Rav Piltz, c'est un grand Rosh Yeshiva en Eretz Israël. Il disait qu'il faut beaucoup se renforcer sur le fait de servir à Kadosh Baruch Hu. Servir à Kadosh Baruch Hu comme lui l'a demandé. Servir à Kadosh Baruch Hu même dans les situations les plus inextricables. Servir à Kadosh Baruch Hu comme on ne l'a jamais fait. Servir Hachem de la façon dont il attend que nous le servions et arriver à se réjouir même dans cette situation où on ne peut pas sortir. On ne peut pas aller à la synagogue, on ne peut pas aller à la yeshiva, on ne peut pas aller au baté midrashot, au baté knessiot, on ne peut pas aller rendre visite à la famille. Et ça, Rabotaï, ce sentiment-là, qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu et s'approcher de lui, même dans cette situation. C'est ça la joie qu'on doit avoir. La joie que Dieu se dévoile, donc on peut le découvrir, on peut le dévoiler. Et d'un autre côté, la crainte et les larmes, les tfilotes avec des dema'ot, on doit les ressentir parce que de même qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile, de la même façon la Midat Hadin est très forte. La Midat Hadin, la mesure de rigueur, elle est très metoucha dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il emmène des tzadikim. Les États-Unis, Rabotaï, ils ont perdu plus que 10 000 personnes déjà, dont des rabbanim, des talmidei chachamim, des morei Torah, des rashi yeshivot, des tzadikim, adore. Des gens en Eretz Israël, des gens en France, le Rav Besrat Hamouz, Zekat Tzadik Kadosh Tivracha, que ce soit les Lunishmato, et aussi Albert Avram Ben Beya, et beaucoup de tzadikim qui sont partis ces derniers temps. Ah oui, tous ces gens-là qui sont Betsara, Hachem les a pris. Donc on doit avoir la crainte, et c'est ça qui doit procurer nos larmes. Les larmes ne doivent pas venir du désespoir. Les larmes, elles doivent venir d'un sentiment qu'on a compris qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Ni les médecins, ni les hôpitaux, ni l'armée, ni l'ONU, ni les États-Unis d'Amérique, que Akadosh Baruch Hu Anod Milevado. Sentir ça au fond de nous, c'est ce qui peut nous apporter là-bas des dma'ot. Des larmes, Rabotaï converse devant le maître de l'univers, Melech Malka Mlachim Akadosh Baruch Hu. Et quand on ressent ça, alors nos larmes, elles peuvent déchirer les cieux. La larme qu'on verse devant Akadosh Baruch Hu, elle est précieuse. On le voit, Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, la paracha de Vaetranan, il a fait 515 filotes, il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, il a pleuré, il a prié, il a versé des larmes, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit « Ravlach, Altosef ». Le Midrash le dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Ça suffit, n'ajoute pas des filotes ». Comment ça? Parce que si tu ajoutes encore une 516e filote, tu vas ouvrir les portes du ciel et je devrais te faire entrer en Eretz Israël. J'ai fixé et j'ai prévu que tu ne devais pas rentrer en Eretz Israël. Donc ne prie pas. Abodai, le lachon de Vaetranan, c'est lachon Techina. Techina, c'est des larmes. Des larmes, elles peuvent même aller à l'encontre du décret divin. Akadosh Baruch Hu, il a décidé quelque chose. On verse des larmes, on peut déchirer les décrets. La Gemara nous dit d'ailleurs dans Masechet Brachot, depuis la destruction de Beth Amikdash, toutes les portes des tfilotes sont fermées. Aval Sharedin Malonin Halou, les portes des larmes, mes frères. Encore une fois, pas les portes des larmes du désespoir. Les portes des larmes d'émotion qu'on se tient devant le maître de l'univers et qu'on est à quelques instants et à quelques mètres de le dévoilement du Mashiach Tzidkenu. Cet Emouna Rabotai, ce Bitachon qu'on doit avoir de sentir que Dieu est en train de délivrer ses enfants, qu'il envoie des Nissonot, qu'il a envoyé cette pandémie pour que dans le monde entier on se sente concerné. Je suis désolé de vous dire, et j'ai dit tout à l'heure à mes talmidim, Rabotai. Vous savez, mes tzadikim, malheureusement, on est dans une génération que c'est la génération du cœur de pierre. Comme ça, c'est marqué dans la prophète Jérémie. Viendra une génération qui sera la génération de l'Ev Even, un cœur de pierre. Abodai, le seul qui est capable de faire sortir là-bas de l'eau, de la pierre, c'est Moshe Rabbeinu quand il a parlé avec le rocher et qu'il a de Terhafaras. Il a dit, non, on ne sait pas faire sortir là-bas de l'eau du rocher. Qui est capable de faire des larmes dans les filottes aujourd'hui? Qui est capable, Rabotai, aujourd'hui, de verser des larmes à Kedekar, qu'il va être capable de déchirer le ciel? On voit parfois des feuilles de Koupataïr qui nous arrivent. On voit des gens qui sont Betsara, des veuves, des orphelins, des femmes qui sont parties et qui ont laissé 15, 14 enfants qui ne sont toujours pas mariés, des pères de familles qui sont partis. Et voilà qu'on reçoit ça en plein milieu de notre petit déjeuner. On se prend un petit croissant au Nutella de qualité supérieure, bien sûr avec le Badas Laïda Haredi, le Psagzman, on l'appelle, de qualité supérieure. Et voilà qu'on est en train de le manger à Botaï. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Entre deux bis, on se regarde là-bas, encore une Sarah, encore un malheur, encore des choses qui sont difficiles. Et on ne sent plus qu'on est concerné par l'affaire. On a l'impression que les gens sont des numéros. On se sent plus interpellé. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on n'est pas nosé olim chavero, qu'on ne partage pas la douleur et la détresse de nos frères, il envoie une catastrophe mondiale où chacun d'entre nous, on est concerné, où chacun d'entre nous, Rabotai, on peut, chasve chalila, être touché par ça, pour briser notre cœur, pour faire conscience qu'il n'y a que lui qui est là, et que notre cœur se tourne vers Hachem, que nos yeux soient rivés vers lui, que toute notre kavana s'éloigne vers le ciel et que les filotes d'Ebn Israël du monde entier va faire déborder la coupe. Vous savez, Rabotai, il faut savoir que les larmes, Akadosh Baruch Hu, il est sofer les dma'ot. Toutes les larmes qui sont versées, Akadosh Baruch Hu, il les conserve dans des flacons qu'il entrepose sous son trône céleste. Et c'est ça qui va ressusciter les morts. C'est ça qui va faire venir la venue de Mashiach Tzidkenu. Le Rav Yecheskel Levinstein disait que la venue de Mashiach Tzidkenu ne dépend pas des mérites, elle dépend des tfilotes. Une fois qu'on est capable de faire déborder la coupe des tfilotes, alors la Géoula, elle va déborder. Notre tfilote à nous, additionnée à celle des générations précédentes, et celle des générations des Tanaïm, et des Amoraïm, et des Rishonim, et des Géonim, et d'Avoteno Agdoshim, et des Neviim, et d'Anshekneset Agdola, et de tous les Malachim qui sont venus à travers toutes les générations. Tout ça, Rabotaï, c'est ce qui va se juguler, qui va se générer, qui va descendre dans cette coupe-là, qui va déborder. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous dans ces temps-là, encore une fois, c'est mitpal el bedmaot, comme disait le Rav Chaim Vital, d'être capable de verser des larmes, de faire une tfila du fond de notre cœur, qu'on se tient devant Akadosh Baruch Hu et qu'on le serve comme lui-même il a décidé. D'un côté avec la simcha extraordinaire, d'un côté avec les larmes d'émotion qu'on se tient devant le maître de l'univers et qu'on peut faire basculer toute la balance du bon côté, qu'on peut sauver des vies, qu'on peut sauver des neshamot, qu'on peut sauver des personnes, faire triatametim, la résurrection des morts, kepshuto. Il y a des gens qui sont entre la vie et la mort. Si jamais nous on est capable de verser des larmes, on peut sauver des personnes qui sont be'anshama, qui sont là-bas en respiration artificielle, qui sont dans le coma artificiel, avec des tfilotes qui percent les cieux, qui sortent des tripes, minamakim keraticha Hashem, des profondeurs. Kadosh Baruch Hu nous a envoyé cette pandémie pour qu'on se sente tous miprinat kol Israël arevim zelazé, la Gemara dans Masechet Shvuot daf lamed tet. Nous sommes tous garants et gardiens les uns des autres. Hashomer achi anochi, qu'on restaure la solidarité, la fraternité, l'harmonie au sein de Klal Israël. Parce que malheureusement, comme je vous dis, on a perdu cette sensibilité. On assiste tellement à des tsarot, tellement à des catastrophes, qu'on n'a plus l'impression. On reçoit sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, voilà, prier pour un tel. Et au lieu de prier, on envoie et on transfère le message. Alors vous voyez ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous avant qu'on transfère le message, qu'on fasse les tfilotes, qu'on s'arrête pour l'autre, qu'on s'arrête dans notre journée, qu'on fasse un détour pour lui, qu'on se sente concerné comme si c'était nous-mêmes qui étions dans Betzara. Et si jamais Akadosh Baruch Hu, il voit ça, qu'on sait qu'il n'y a que lui qui peut sauver, les larmes Rabotai qui vont arriver. Et la Simcha Tsuma, que Dieu s'adresse à nous, qui nous parle, que nous on est capable de décoder le message de Dieu, qu'on n'est pas comme les nations et les peuples. Alors là, ils ne s'y trompent pas, la Gemara nous dit dans Maaseret Yevamot, dans sa mère Gimel, Kol pour un autre balé olam et la bishvil Israël, En pour un autre balé olam et la bishvil Israël. Toutes les tsarot qu'il y a dans le monde, elles viennent à Rabotai pour le clan Israël, pour nous réveiller à nous, pour que nous on soit ressaisis, pour que nous on puisse prendre conscience. Les goïms sont que une façon de nous réveiller. C'est juste un prétexte que Akadosh Baruch Hu, il les touche aussi à eux pour que nous, par leur intermédiaire, on prenne conscience et on se réveille. Rabotai, je voudrais vous dire une chose, et ça c'est aussi un des yesodotes les plus importants. On a dit tout à l'heure qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec des larmes et d'un autre côté avec la joie. Avoir de la joie de prier seul, je ne sais pas comment vous le vivez. Nous, Baruch Hashem, on est épargné de ça parce que Baruch Hashem, la yeshiva, il est encore ouvert. Et on a une autorisation du ministère de la Santé, vu que nos élèves sont bloqués, qu'ils n'ont pas pu rentrer en France chez leur famille. Ils sont là pour les fêtes. Et Baruch Hashem, c'est les boucliers de tout le peuple juif. Ils continuent à prier, à étudier pour tout le Ham Israël. Hashem v'Hashrechelkam. C'est les piliers sur lesquels le monde entier repose. Hashem, Vashrechelkam, ils ont un sroud qui est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau précieux de continuer à pouvoir prier, à faire le Kaddish, à faire les tchilotes pour la Refoua Shlema. On a plus que 200 noms de personnes pour lesquelles on prie chaque jour et pour lesquelles on essaye de remuer le ciel pour que Akadosh Baruch Hu soit Merachem et qu'il envoie là-bas une miséricorde et une Refoua Shlema pour les malades. Mais en tout cas, j'imagine que ça ne doit pas du tout être agréable de prier tout seul. Je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. On raconte une fois qu'il y a des tzadikim qui ont été pris dans l'armée rouge. Ils les ont mis en prison pour le seul crime qu'ils avaient commis, qui était d'étudier la Torah, d'être juif, de faire la volonté de Dieu et du Créateur. Voilà qu'un jour, quand j'étais en plein milieu de la prison, avec des béhémotes, avec des animaux et toutes sortes de gens, ils leur ont dit désormais, vous n'avez plus le droit de sortir pour aller aux toilettes, voilà le cabinet, on va faire un pot de chambre, et tout celui qui viendra fera un pot commun. Comme parfois il y a des pots communs pour le bien, ils ont fait des pots communs là pour les tarboulottes, là, pour faire là-bas leurs besoins. À Bota, ils sont venus, ils ont commencé, tous les gars qui étaient là-bas, à faire leurs besoins. Vous imaginez l'odeur nauséabonde. Et là, à ce moment-là, les trois chachamim qui étaient là-bas, ils se sont regardés, et deux d'entre eux ont commencé à éclater en sanglots. Ils ont dit, Ribono Shalolam, c'est bientôt Mincha. Comment allons-nous faire alors qu'on n'a pas le droit de faire des tfilotes? Quand on se trouve dans un endroit dans lequel il y a une odeur nauséabonde, on n'a pas le droit de verser des larmes, on n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit de pleurer devant Akadosh Baruch Hu. Comment on va faire maintenant pour faire notre tfila? Comment on va faire pour faire Mincha? Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a vu ça dans le ciel. Il a vu qu'il y avait un des trois Chachamim, le Rav. Il y avait deux Talmidim et le Rav. Le Rav, il a commencé à faire la danse de Rabbi Jacob. Il a commencé à se devenir fou, il était très heureux, il était très sa mère. Alors les autres, ils ont dit, Rabbi, t'es devenu zinzin et tout ça, peut-être t'as perdu la boule parce que t'as eu cette nouvelle tellement dure qu'on va pas pouvoir faire la prière et tout ça. Il dit au contraire. Il lui a dit, la volonté d'Akadosh Baruch habituellement, c'est qu'on fasse la tfila. Maintenant, la volonté d'Akadosh Baruch c'est qu'on fasse pas la tfila. Et de la même façon que quand Akadosh Baruch il veut qu'on fasse la tfila, on fait la tfila Bessimcha. Maintenant qu'il ne veut pas qu'on fasse la tfila, on ne fera pas la tfila et on gardera notre simcha. Rabota, ils ont commencé à se mettre à danser tous ensemble. Ah purée, c'est vrai, vous entendez mal ce que je vous dis ou quoi? C'est une trahison ça. C'est revenu le son? Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Ok. Bon, au prochain. Je vous disais, au moment où ils ont commencé ils ont commencé, donc là, les autres aussi, ils ont entendu ce chidouche. Ils ont commencé à danser. Ils ont fait des danses folkloriques, ils ont commencé à danser là-bas et tout ça, il est comme vous. Et voilà que le capot là-bas de l'armée rouge, il arrive et il les voit en train de danser, en train de faire des rigolades, en train de faire des choses comme ça et tout ça. Abouda, il est devenu fou. Il a dit, les gars, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de faire aucune chose spirituelle. Nous, on est le marteau et la faucille. Oh, comme ils disent là-bas aux États-Unis, God we trust, c'est dans le dollar qui croit, les gars. Il dit, tu n'as pas à Kochivatsevatakhailazé, à dollar Melech, à dollar Malach, à dollar Imlor le Lamaïd, c'est le dollar qui est le Dieu et tout ça là-bas. Il te dit, celui qui croit à des choses qui sont transcendantales, qui sont surnaturelles, qui sont là-bas au-delà de l'entendement, ça c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout aux gens. La reine, quand ils ont vu qu'il était en train de danser autour de ce pot de chambre, ils se sont dit, ces juifs-là, ils sont en train d'adorer et de vénérer les excréments. Ils sont en train de faire là-bas, comme il y avait, ils croyaient que c'était les Gilgoul de Baal Peor. Vous savez, il y avait une époque où il y avait là-bas un des cultes idolâtres, il fallait déféquer devant une statue. Ils ont dit sûrement que ça doit être là-bas. Ils ont pris Rabotaï le truc, ils disent, ah, vous êtes en train de faire là-bas un culte et vous adorez là-bas le pot de chambre. Vous savez très bien que l'armée rouge interdit tout culte, quel qu'il soit. Et bien maintenant, vous n'avez plus le droit. Ils ont pris Rabotaï le pot de chambre, ils l'ont mis là-bas à l'extérieur. Et à ce moment-là, à Boutaï, ils ont pu faire mincha et ils se sont réjouis d'une façon extraordinaire. Qu'est-ce que vous dites, Boutaï, de cette histoire incroyable? Ils ont été capables de ressentir qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu, la sod retsoncha kirtsoncha, de faire la volonté de Dieu. Lo kirtsonenu, pas comme notre volonté à nous. Quelle est notre volonté à nous, Boutaï? C'est d'organiser des minyanes, de faire des tfilotes, de venir là-bas au Beit HaMidrash, de venir à la synagogue. Mais comme on a dit la dernière fois, si on sait qu'on va mettre en danger un frère du clan Israël, on a le droit de faire une chose pareille, de faire des minyanes pirates. Il y en a qui font Messirut Nefesh pour ça. J'ai pensé à Rabotaï ces derniers jours, et je vois un Kiddush Hashem extraordinaire à Bnei Brak, que tout le monde fait la prière à Rabotaï de sa fenêtre. Il y a des tfilotes là-bas, on prie frère des oiseaux là-bas. J'ai vu des oiseaux chez nous à la Yeshiva, ils font des bruits de qualité supérieure. On fait des prières à Rabotaï, l'un il crie par la fenêtre et l'autre il lui répond, et on est mitztaref, on n'est pas mitztaref, on le voit celui-là. Et les autres ils arrivent, ils commencent à faire la prière en yiddish, et l'autre en sfarad, et l'autre en kurde, l'autre en serbe. L'autre il fait là-bas avec le targouche, l'autre il fait à Rabotaï des témanimes avec des turbans. Toutes sortes de gens avec cet ardoute extraordinaire, et qu'ils ont écouté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rabotaï, si jamais on veut faire Messirut Nefesh et faire un don de soi, une abnégation, tu es en train de faire Messirut Nefesh pour aller contre les Gdolim, contre les maîtres de la génération qui ont demandé de ne pas faire la prière Bérabim, de ne pas faire la prière Béminyan, quand même eux, ils ont beaucoup plus conscience que nous de ce que c'est que l'importance de la Tfila Béminyan. Akadosh Baruch veut qu'on le serve comme lui veut qu'on le serve, et pas comme nous on veut le servir. Et ça, c'est un Yesod Gadol. C'est un Yesod Rabotaï qui était présent même dans les camps d'Auschwitz, où il y avait des gens à Rabotaï qu'à Simchat Torah, ils sont rentrés dans les chambres à gaz en dansant. Ils ont dit, on a pris là-bas tout notre corps, on a pris notre liberté, on a pris nos biens, on a pris là-bas nos enfants, nos parents, nos familles, nos rabbanim, nos Talmud et Torah, notre livre. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever, c'est notre Emouna. Quelle est la mitzvah qu'on peut être mekayem maintenant qu'on se trouve là-bas à Auschwitz et c'est le jour de Simchat Torah? Au lieu de rentrer avec le visage brisé dans les camps de la mort, on va rentrer des simcha parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Avodah est quelqu'un qui vit de cette façon-là. C'est quelqu'un qui a compris que derrière là-bas l'obscurité, il y a la lumière. Que derrière les nissionotes et les épreuves, Akadosh Baruch Hu se tient et se trouve là. Ça va couper dans quelques instants. On vous demande de recliquer sur le lien pour continuer le chiot. Celui qui vit de cette façon, moi, il verra Botaï. Il amène la Geoula Baolam. C'est marqué dans la Gemara de Shah. Kola Samer Beisuri Mevi Geoula Baolam. Celui qui se réjouit dans les épreuves, il amène la Geoula dans le monde. Parce que Rabotaï, il comprend que Hachem, Hu Elokim. Elokim, c'est la Midatadin, c'est la mesure de rigueur. Hachem, c'est la mesure de miséricorde. Hachem ou Elokim. Ne crois pas qu'il y a Elokim qui est tout seul, qui a la mesure de rigueur, qui vient et qui frappe. Celui qui se cache derrière Elokim, c'est Hachem le bienveillant. Hachem Babar Bilhanin Akadosh, beaucoup notre Père bienfaisant et bienveillant, qui nous aime et qui veut nous sortir de toutes les situations. Qui nous envoie les épreuves pour nous briser le cœur et pour nous faire verser des larmes, pour qu'on puisse mériter la Geoula chez les mains. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous dans ces temps difficiles qu'on passe. Qu'on prenne conscience qu'on doit le servir comme lui veut. Il a décidé qu'on va le servir en étant enfermé dans une maison, on sera enfermé dans une maison. Il a décidé que pour l'instant, on n'a plus le temps, on n'a plus le droit d'aller au Beit HaMidrash, on écoutera les shurim sur Skype et on se renforcera comme des lions. On lâchera rien, Rabotaï. Et c'est ça qu'il faut montrer à Hachem. Même si, comme je l'ai dit la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu a dit, garde tes mitzvot, vous pouvez l'écouter le shiur sur torahdelumière.com. Il y a un shiur magnifique que je vous ai demandé d'essayer de circuler au maximum. Si d'ailleurs vous pouvez le mettre sur le groupe et le faire parvenir au maximum de personnes. Akadosh Baruch Hu, il a pris le verre d'eau, il nous l'a jeté au visage pour nous dire, je veux plus de vos mitzvot. Nous, on doit s'entêter. On doit dire, Ribbono Shel Olam, malgré que tu ne veux pas notre fila, on va quand même prier. On priera de la maison, on priera avec notre cœur, on priera dans l'intimité, on priera un service qui est le service du cœur, pas le service de ce que les gens vont dire de moi quand je vais prier. C'est une prière d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. On va se retrouver dans quelques secondes, mes amis. Donc servir Akadosh Baruch Hu, mon Raïver Abotaï, le servir comme lui a décidé qu'on le serve et pas comme nous on veut le servir. Ça, c'est un des grands messages aussi qu'on est en train de passer dans ce coronavirus. Et pour la première fois, Akadosh Baruch Hu, il veut voir si jamais on est des avadim d'Akadosh Baruch Hu, ou est-ce qu'on est des avadim de nous-mêmes. On est des avadim de nos habitudes. On est des avadim de ce que nous on a l'habitude de faire, de ce que nous on veut faire, mais on n'est pas au service d'Hachem, on est au service de nos habitudes. Ça, Abudai, c'est un très 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 grand chidouche qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner en ces temps pour voir véritablement qui c'est qui est attaché à moi envers et contre tout. Qui sera capable de ne rien lâcher? Qui sera capable de toujours vivre avec moi, même si jamais je suis en train de lui demander de servir d'une façon différente de ce dont il a l'habitude, de ce différent de ce que lui, il conçoit. Et ça, on peut voir malheureusement des personnes qui n'ont pas compris le message et qui veulent continuer à servir Akadosh Baruch Hu comme eux, ils ont décidé. Et sur ça, il se plante complètement. On demande de couper les micros, mes chers amis. Et on vous remercie. Qu'est-ce que la mitzvot? Et je vous disais, mes chers frères, mes chères sœurs, la voix de Hachem qui sonnera, de servir à Kadosh Baruch Hu comme lui nous le demande, c'est un des très très grands messages qu'il y a. Pour revenir à Voudat Hachem, Bessimcha, et de voir justement comment servir à Kadosh Baruch Hu, même dans les temps difficiles, même dans l'obscurité, même dans la torpeur, d'avoir la balasimcha au fond de nous. Comment arriver à avoir une chose pareille? Il faut savoir que Dieu se cache derrière tout ça. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Je parlais cette semaine avec un de mes amis les plus proches, un tzaddik et ce de l'homme sur lequel le monde repose. Et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on verse des larmes, on prie, on implore Akadosh Baruch Hu pour avoir une bonne nouvelle dans un domaine. Et visiblement, on a eu des résultats qui, pour l'instant, ont l'air d'aller contre ce qu'on avait décidé. Contre ce que nous on voulait, contre ce que nous on avait pensé qui était le bien. Et quand il a reçu les analyses, il m'a dit, j'ai l'impression que je me suis reçu une trehafras multipliée par deux de Ivan Drago. Ceux qui ont connu Ivan Drago à la Vachalom, c'était un des personnages de Rocky IV avec les picots blonds, dont la force de frappe était terrible. Ça veut dire que c'est la force de Sangohan, Sangoku, Go Vegeta et Go Trunks et aussi Krilla en même temps. Si vous mettez là-bas la force de tout cela en même temps, quand il devenait avec les cheveux jaunes, c'est ça Rabotaï, la force du bon vieux Drago. Je dis, j'ai senti que je me suis reçu comme si j'avais reçu là-bas, dans le nez, une patate de qualité supérieure. Les résultats, Ils m'ont complètement retourné. J'ai senti que j'ai reçu ça. Alors je lui ai dit, mon frère, n'oublie pas une chose. Celui qui t'a donné la patate, c'est pas Ivan Drago. C'est Babarbi. C'est Akadosh Borou, c'est notre père. Et si notre père, il nous envoie la patate, ça veut dire que la patate, Rabota, elle est douce. Patate ahloa. Une patate qui est bonne. Même si on ne comprend pas forcément. Même si on ne sait pas d'où elle arrive. Même si on a du mal à voir le bien dans cette chose-là. Mais Akadosh Borou, il est là. Et je vais vous raconter deux histoires extraordinaires pour pouvoir vous illustrer ce propos. Mon ami Rav Ben Shmuel m'a raconté, lui est très très proche du Rav Firer. Rav Firer qui est un des malachim dans le monde, qui œuvre jour et nuit, avec tout son cœur et toute sa volonté, pour essayer de sortir des gens de la torpeur, des gens de la difficulté, les organiser pour aller dans des bons professeurs, dans les bons hôpitaux, pour aller dans les endroits du monde entier, et les aider financièrement, et les aider par des conseils prodigieux qu'il leur dispense, parce qu'il connaît la médecine d'une façon incroyable, et tous les meilleurs médecins du monde, il les connaît également. Lui travaille chez le Rav Firer, et il est à ses côtés. Il y a 22 ans, on lui a découvert, un guidoul, une tumeur, qui était très dangereuse, a priori, d'après ce que les médecins ont dit. Ils lui ont demandé de faire des examens, ce qu'il a fait, et par la suite, ils lui ont demandé de commencer un traitement. Comme il a la émouna, le bitachon, il n'avait jamais commencé le traitement avant de demander au Gdolim. Il est parti voir le Rav David Abouchatsera, à Naharia, le tzaddik, le fils du Baba Meir et le petit-fils du Baba Salé. Il est parti voir le Rav, et quand il s'est tenu devant le Rav, il a dit, voilà, les médecins ont dit qu'il a la maladie. Le Rav a tapé sur la table, il a dit, bari oulam, kloum. Il a dit, il n'y a rien du tout. Tu seras bonne santé toujours, comme un lion. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Il est sorti de là-bas, tous les diagnostics vitaux, les médecins et tous les examens et les analyses, et les a mis là-bas dans la Gnisa, et voilà qu'il n'a pas fait cas de cette affaire. Des années plus tard, les médecins l'appelaient, ils lui disaient, Ben Shmuel, on sait que tu es proche du rafieur, montre l'exemple, soigne-toi, ça peut être dangereux ce que tu es en train de faire. C'est pas normal, on a fait les examens, on est formel, la maladie est grave, elle est menaçante, il vaut mieux que tu t'en occupes maintenant, c'est très grave ce qui va se passer. Et lui ne faisait pas cas. Jusqu'à un jour où il commençait à avoir le doute qui s'est un petit peu semé dans son esprit, et à ce moment-là, il est retourné voir le tzaddik. Il lui a dit, voilà, les médecins me disent de refaire les examens, de voir un peu ce qui se passe, il faut que j'aille me faire soigner. Alors le rav lui a dit, si avait ils t'ont dit, tu ne peux rien d'aller vérifier ce qu'il en est. Il est parti à Boutaï. Il a fait encore une fois les examens et ils l'ont convoqué donc en urgence. Il est parti directement urgemment l'après-midi. Ils lui ont dit, on ne peut pas te recevoir pour faire les examens facilement. Il faut que tu reviennes demain matin. Le lendemain matin, tu dois revenir. Le professeur lui a dit, tu viendras à la première heure. C'est normalement des choses qui doivent prendre là-bas 5 ou 6 semaines pour pouvoir avoir des torts. Et ce jour-là, il lui a fait 8 biopsies. Il a ouvert le corps dans tous les sens. Et voilà qu'il attendait patiemment de recevoir là-bas les résultats. Et une fois qu'il a terminé toutes les biopsies, il est reparti avec sa moto. Vous savez, il a la moto de l'ambulance. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les motos de Zaka et les motos de Hatzalah qu'il y a ici en Eretz Israël, avec lesquelles ils sont en une minute sur tous les lieux des attentats ou des accidents ou des tsarot qu'il peut y avoir quand il y a des choses en Israël. C'est des malachim aussi, c'est tzadikim. Ils n'ont ni Shabbat, ni Yom Tov, ni Kippour. Ils sont au service du Ham Israël jour et nuit. Des chilonim et des datiim et des haredim et de tout le monde. Ils ne font pas de distinction, c'est des tzadikim sur lesquels le monde repose aussi, et on doit leur rendre un grand hommage. Il est parti à Bouddha, il a été fauché et balayé à toute vitesse par là-bas un automobiliste chevronné, et voilà qu'il s'est retrouvé avec les côtes fêlées, avec une très grosse brûlure, et il est retourné à l'hôpital. Il s'est tourné vers Akadosh Boko, il dit Ribbona Olamim Vadona Adonim. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai décidé de me soigner. J'ai écouté les médecins, je me suis retrouvé là-bas à l'hôpital, et maintenant je me retrouve à l'hôpital pour deux pour le prix d'un. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'envoies là-bas toute cette sarotte et toute cette difficulté? C'est pas facile pour moi, mon Dieu, mais je suis mekabel be'ava ce que tu me donnes. Je sais que ça doit être pour le bien, mais j'ai du mal à voir le bien. Abouda, il a eu beaucoup, beaucoup, et donc il est venu quelques jours plus tard pour se faire soigner, commencer le traitement que les médecins avaient voulu entreprendre. Et alors le médecin il lui a dit, je suis désolé, Ben Shmuel, tu sais très bien, tu ne peux pas recevoir le traitement tant que ta brûlure elle n'a pas été résorbée, tant que tes blessures, répare-toi déjà des grands bobos et après on te fera là-bas le vrai traitement et tout ça, mais tant que tu n'es pas encore sur pied, on ne peut pas s'occuper de toi. Et Abu Dhabi, pour une raison qu'il ignore, et que tous les médecins du monde ignoraient du reste, puisqu'il connaissait, le Rav Firer connaissait les médecins du monde entier, sa brûlure ne s'est pas résorbée pendant une année. Pendant un an, il avait encore la brûlure qu'il a eue quand il est tombé là-bas de sa moto, et personne ne comprenait, peut-être qu'il a là-bas le diabète, il n'a pas le diabète, et qu'est-ce qui se passe, c'est infecté, c'est pas infecté. Ils ont essayé avec les pochettes de gaz, et pas les gaz, le mercure ou chrome, le pansement des héros. Ils ont essayé par tous les moyens, et rien n'y fit, Abu Dhabi. Jusqu'à ce qu'un jour, après qu'un an ont passé, il est venu la fille de ce Ben Shmuel, le Rav Ben Shmuel, le tzaddik, mon ami, et sa femme. Ils ont dû aller voir ce professeur en question pour un problème de santé qu'ils avaient. Et il dit, dites-moi, vous appelez Ben Shmuel? Il dit, oui. Il le dit, et votre mari, c'est pas un tel, tout ça, Ben Shmuel? Il dit, oui, c'est mon mari et tout. Ah, il dit, quel âge garçon incroyable et tout ça. Eh bien, dites-lui qu'on a refait, on a eu les résultats de toutes les analyses, on a refait là-bas toutes les biopsies, on a vérifié tout ce qui se passe, et finalement, Baruch HaShem, il n'a plus rien du tout. Il est bari, Béchalem, il n'a pas là-bas de maladie. Dites-lui que la tumeur, c'est une tumeur qui est tout à fait bénigne et qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, on n'a pas besoin de faire là-bas aucun traitement. Ah, Bouta, à ce moment-là, il est devenu fou. Il a dit, Ribono Shelola, maître de l'univers. Tu m'as fait aller ce matin-là à l'hôpital pour aller faire 8 biopsies. Et en sortant de cet hôpital où j'avais décidé de me faire soigner, j'ai été fauché par un automobiliste. Je me suis retrouvé à l'hôpital pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours. J'étais les côtes fêlées, la brûlure, elle ne voulait pas partir. Et moi, je me disais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais finalement, Abu Dhabi, cette brûlure-là, lui a sauvé la vie. Si jamais il avait ingurgité toutes ces substances et tout ce poison-là de ces médicaments contre le cancer, Rahman al-Islam, il serait plus de ce monde aujourd'hui. Ça fait 22 ans que les médecins, ils continuent à l'appeler pour lui demander de se présenter. Et Rabotai, les médecins l'attendent toujours. Parce qu'il a compris qu'il y a un médecin qui s'appelle Rofé Cholam Israël. Et il m'a dit de transmettre cette ségoula extraordinaire d'Egdolé Israël, de lire Rabotai, la bracha de Hashem Yatsar dans les mots. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Olam Asher Yatsar et Adam de Chokhma. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec une sagesse insondable, incommensurable. On n'a pas idée, Rabotai. Le corps humain est quelque chose d'incroyable. 60 pulsations à la minute qui fonctionnent, Rabotai, le cœur pendant 120 années, sans qu'aucune personne ne vienne le changer. Il n'y a pas de plombier, il n'y a personne qui vient changer là-bas la tuyauterie. Il y a 120 000 km de réseau sanguin à l'intérieur du corps humain, de quoi faire 3 fois le tour de la surface de la Terre, qui est de 40 000 km de diamètre. Qui peut entreprendre de maintenir une entreprise aussi sophistiquée et aussi incroyable? Si jamais ça venait à se boucher, ne serait-ce qu'un instant, IF Charlie, Kayem Afilou, Sha'ahat. Rabodai, les Gdolim nous disent que celui qui dit Asher Yatsar, la bracha qu'on doit réciter quand on sort des toilettes après s'être lavé les mains, que le Ben Israël nous dit, Sirugim, il faut se laver, c'est bien avec le Keli, et 3 fois de chaque côté en alternance. Il te dit, celui qui fait une chose comme ça à Botaï, il est mouftachlo, qui ne sera pas malade, le ichle leolam, il ne sera pas malade. Il faut réfléchir à Botaï à ça. Un jour, il parlait avec un gars qui se concertait avec le Rav Firer pour savoir c'est quoi le meilleur cardiologue. Il a dit, le meilleur cardiologue, c'est Akadosh Baruch Hu. Rofé chol basa ou mafli l'asot. Il fait des miracles, Akadosh Baruch Hu. Il nous fait vivre, il nous donne des reins, il nous donne des yeux, il nous donne des oreilles. Le fonctionnement du corps humain, il est incroyable à Botaï. Il faut être conscient de ça, qu'on a le Rofé Cholam Israël avec nous, Melech Malcham Lachim. Celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, il a besoin de personne. Celui qui place sa confiance en Dieu, qui n'a que lui. Même de l'obscurité, il sort la lumière, Mi'az Yetzemato. Et je termine sur cette histoire incroyable que j'ai entendue récemment du Rav Neugershal, qui est un des grands tzadikim chez nous à Bnei Brak. Elle va nous montrer ici une histoire incroyable qui s'est produite à Auschwitz. Et qui raconte Rabotai la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu veille sur chacun de ses enfants, comment Akadosh Baruch Hu, il est à nos côtés, il est avec nous, il ne nous abandonne jamais. Et même quand on se trouve à Auschwitz, même quand on est Rabotai dans le si approché, dans l'enfer, dans l'univers concentrationnaire de l'Allemagne nazie, on doit savoir que Kolman David Rahaman el Etavu David. Au cœur du camp d'Auschwitz, À cette époque-là, 200 000 juifs de Budapest n'ont pas été envoyés vers les camps de la mort en été 1944, malgré les nombreux convois qui partaient de Hongrie vers la mort lente. 12 000 personnes par jour étaient expédiées vers cet endroit. La raison pour laquelle, entre autres, le dirigeant hongrois qui s'appelait Horthy à l'époque, il a peut-être ralenti ses convois, c'est le rapport de deux juifs qui se sont échappés d'Auschwitz, Erev Pessah, le 7 avril 1944. Ces deux juifs s'appelaient Rudolf Verba et Alfred Wessler. Verba en question, il est décédé il y a quelques années à Vancouver. C'était un grand professeur en cancérologie et il a dévoilé des remèdes extraordinaires au cancer. On sait que tous ceux qui ont survécu à Auschwitz, c'est des gens qui avaient des rôles et des postes à responsabilité dans ces camps-là. Erev Pessah, le 7 avril 1944, Rudolf Verba et Alfred Wessler, ces deux-là, ils avaient des rôles respectivement dans le camp de Birkenau et dans le camp de Auschwitz. Le premier, Wessler, il tenait la liste de tous nos frères qui étaient exterminés à Birkenau. Chaque jour, il fallait savoir combien de personnes partaient, combien de personnes étaient dans le camp. Et Verba, quant à lui, il tenait la comptabilité de ceux qui arrivaient vers le camp. Ils se sont échappés et ils ont envoyé ce rapport qui arrivait jusqu'au pape, qui a demandé d'arrêter les massacres. Et c'est à ce moment-là donc qu'il y a beaucoup de juifs qui ont été sauvés, ces 200 000 personnes, après que Pie XII avait beaucoup collaboré, qu'il était resté silencieux, le silence de l'Allemagne, de l'Église catholique qu'on connaît, elle avait été ébranlée par justement la connaissance de ces tzadikim qui ont envoyé ce rapport après ce qu'ils ont passé. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'ils faisaient rigoureusement attention à l'époque à faire en sorte que il n'y ait pas de personnes qui s'échappent du camp d'Auschwitz pour que justement on n'en arrive pas à avoir des rapports comme cela qui allaient ébranler le monde éclairé et qui allaient ouvrir les yeux du monde, qui allaient enfin intervenir pour venir à la rescousse du peuple juif qui était très très gravement éprouvé. Les trois camps principaux qu'il y avait à l'époque à Auschwitz, c'était Auschwitz 1, Auschwitz 2 et le troisième camp qui s'appelait Buna ou Manowitz. Autour de Birkenau et d'Auschwitz, il y avait une garde intérieure avec des barbelés électriques à très haut voltage. Un peu plus loin, la même chose. Et tous les 70 mètres, des tours de garde avec deux SS ukrainiens munis de fusils mitraillettes très lourdes. Un rat ne pouvait pas passer par là-bas sans qu'on le voie clairement. Autour de ces trois camps, dans un rayon de 3 km, il y avait une deuxième ronde de garde avec des tours qui était avec encore une fois des gardes tous les 70 mètres, sans barbelés, sur chacun deux SS avec des mitraillettes lourdes. La majeure partie de la journée, la garde intérieure, elle ne gardait pas tellement. Parce que le camp, il était pratiquement vide. Tous les détenus, ils sortaient pour aller faire leur travail, les travaux forcés. Mais la garde extérieure, par contre, elle fonctionnait, les tours fonctionnaient, tout le monde faisait attention. La nuit, en revanche, tous les travailleurs y revenaient au camp, avec les mourants, les malades, ont procédé à un compte très méticuleux, et le compte devait correspondre parfaitement au compte du matin. Comment c'était le soir, ça devait être aussi le matin. Ainsi, on s'assurait que personne ne s'était échappé. Si jamais le nombre y correspondait dans 99% des cas, alors on libérait les gardiens extérieurs, on fermait hermétiquement le camp, sans permettre aucun aller-retour entre le camp, dedans et dehors. Si jamais, par contre, il manquait quelqu'un, on cherchait une heure, après quoi on sonnait une sonnerie et on procédait à une recherche pendant 3 jours. La garde extérieure était mobilisée avec 3000 nazis munis de 300 chiens surentraînés pour chercher là-bas les détenus. On laissait rien au hasard. Il essayait de fouiller les moindres recoins. Et si jamais après ces 3 jours-là, on n'a rien trouvé, ce qui arrivait très très rarement, on revenait à une vie, si on peut dire, normale et banale dans le camp. Et les recherches, elle commença à être exécutée par la garde extérieure. Verba et Wessler, ils ont pensé à une tentative d'évasion. Puisqu'ils étaient ceux qui détenaient les registres, ils avaient un visa pour passer d'un camp à l'autre. Ils ont pensé sortir pendant la journée entre les deux camps. Ils resteraient entre les deux camps, entre la garde intérieure et la garde extérieure, pendant 3 jours et 3 nuits. Et la troisième nuit, lorsque la garde extérieure elle serait relâchée, eh ben, il se serait enfui. À cette époque, on amenait dans le camp des corottes. Vous savez ce que c'est des corottes? C'est des morceaux de bois, comme des planches de bois. Corottes, ça ressemble aussi à corona. On verra un petit peu le corollaire dans quelques instants. On appelle ça les Holz Commando, les commandos du bois. Ils se sont dit qu'ils allaient creuser dans les tas de planches de bois qui étaient très 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 hautes, un vide pour permettre à 2 personnes de se cacher. Et à ce moment-là, ils allaient demander à des travailleurs polonais de les recouvrir avec 3 couches de planches de bois pour dissimuler leur silhouette sous le bois. Là-bas, ils se sont cachés pendant 3 jours. Le 7 avril, le 11 Nissan 1944, veille de Pessah, Verba et Wessler arrivent, ils plongent dans le tas de planches et ils demandent aux Polonais de les ensevelir sans que personne ne les observe. Il est 17h. Les travailleurs rentrent au camp. La sirène déchire les cieux et on reçoit ordre de ne pas libérer la garde extérieure. Ils commencent à chercher, ils maudissent en allemand. Les chiens leur passent à côté à 10 reprises. Ils se sont demandé d'ailleurs comment ça se fait que ces mzroubims de chiens, ils n'ont pas réussi à leur mettre la main dessus. Ils avaient appris d'un officier russe qui était en captivité que si jamais on utilise du tabac russe et qu'on l'enduit avec de l'essence, ça neutralise l'odorat du cabot. Ils ont essayé, ils ont mis le tabac entre les bois et ça a fonctionné. Plus que 6 heures et ils seront dehors. Il ne restera qu'à soulever les planches de bois, la garde extérieure sera libérée et eux aussi ils seront libres, ils seront sortis de l'univers concentrationnaire et de la galoute rabotaï de Mitzrayim, de Auschwitz. Verba et Wessler, ils entendent à ce moment-là que la tension était à son paroxysme. Un officier allemand, il dit à son ami Otto, c'est le nom d'un mzrob d'allemand, « Peut-être sont-ils cachés dans le bois ?» Il voulait beaucoup le prix qui était octroyé à ceux qui trouvaient les fuyards. L'autre, il lui répond « Habibi, si jamais ils étaient là-bas dans le bois, c'est sûr que les chiens, ils seraient déjà venus à leur rencontre, ils les auraient déjà retrouvés. » Tu n'as pas vu comment ils sont passés, c'est des chiens qui sont entraînés, ils savent très bien l'odeur que ça a, ils savent faire des techniques pour pouvoir les retrouver. Rabotaï, il a dit, on ne peut rien d'aller voir, peut-être qu'ils ont le tabac là-bas de virus, ils ont utilisé là-bas ce tabac et tout, on va quand même essayer pour aller voir ce qui se passe. Ils ont enlevé la première couche de bois, ils ont enlevé la deuxième couche de bois. Les deux détenus, Rabotaï, ils commençaient à entendre déjà leur respiration. Ils retenaient leur souffle. Encore une couche et ils seront morts. Ils seront dévoilés. Ils se sont mis à en vouloir au monde entier. Venez, on essaye d'entrer dans le bois à leur place. Qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là? Après tout ce qu'on a passé, qu'on était pratiquement dehors d'Auschwitz, qu'on était pendant 2 ans dans les camps de la mort lente, qu'on a vu tellement de nos frères partir et être exterminés, après 3 jours de suspense insoutenable, une petite couche les sépare de leur bourreau. Mais soudain, on entend Rabotaï un bruit sourd dans tout le camp, une sirène qui retentit. Et à ce moment-là, ils se disent sûrement qu'ils ont été attrapés. Ils ont dû sûrement être attrapés et être neutralisés par l'armée. Ah, Rabotaï, à ce moment-là, ils commencent à réfléchir. Et ils se tournent les talons et ils s'enfuient en courant. Ils partent à Rabotaï et voilà qu'ils ont délaissé Verba et Wessler qui se trouvent tout seuls dans la dernière petite pellicule de bois. À ce moment-là, ils entendent encore quelques heures, la sirène retentit et la garde extérieure est relâchée et voilà qu'ils sont libres. Ils entendent les trains de la mort qui arrivent. Un silence de mort. Ils veulent se sortir pour arrêter ce massacre et faire le rapport qui allait sauver la vie à 200 000 de leurs frères. Il fait obscur, c'est la nuit noire. Voilà qu'ils sont libres. Ils attendent encore 2 heures. Il faut juste lever les planches de bois et ils sont dehors. Rien de plus simple, mais rabotaille. Pour des prisonniers d'Auschwitz. C'est pas si simple que ça. Ils ont plus de force. Ils n'arrivent pas à soulever les planches. Ils se sentent leur force abandonnée. Ils parviennent pas. Ils savent pas s'ils vont mourir de faim, de soif, ou est-ce qu'ils vont mourir d'étouffement. Est-ce qu'ils seront attrapés? Avec l'énergie du désespoir, et plutôt l'énergie de l'espoir de la Imuna Kakadosh Bohu, ils donnent les forces à Noten Ayaefkoar. Ils unissent leurs forces et ils poussent avec les petites forces qu'il leur reste. Et Bahuchou Bahuchemo, ils arrivent à se hisser au-dessus de la couche de bois. Ils s'assoient sur le bois. Et Wessler, il dit à Verba, imagine si cette pourriture, ils n'avaient pas levé ces 2 couches de bois, on serait mort. Si déjà une couche, on a eu du mal à la soulever, alors comment on aurait pu soulever 3 couches? Après 2 heures, il était en dehors du camp. Après 2 jours, ils ont tapé à la porte d'une Allemande qui haïssait les Allemands parce que son fils, il avait été pris. Et il était dans les camps de travaux. Ils sont passés en Slovaquie et ils ont rédigé ce rapport qu'ils ont envoyé au Rav, qui a fait transmettre jusqu'au pape et qui a finalement sauvé Rabotaï, ses juifs. On apprend de cette histoire que même dans l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il prépare le sauvetage de ses enfants. Alzen Emar, Otra Hashem ki anaftabi. C'est un pasouk, mes frères et mes sœurs, qui se trouve dans Yirmiyahu, dans Yeshaya, pardon, au chapitre 12. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu, parce que tu m'as frappé. Parfois, les coups d'Akadosh Baruch Hu, c'est Rabotaï quelque chose qui nous sauve la vie. Regardez, Rabotaï, ces 2 pellicules de bois que ces Allemands sont venus enlever. Imaginez-vous qu'est-ce qu'ils devaient ressentir à ce moment-là, après tout ce qu'on a passé, toutes les difficultés qu'on a eues. Ils en voulaient au monde entier, au fond d'eux-mêmes. Mais Rabotaï, mi az yetzematok, otra Hashem ki anaftabi, je te remercie, Akadosh Baruch Hu, parce que tu m'as éprouvé, parce que tu m'as envoyé des épreuves. Et c'est ces épreuves-là qui m'ont sauvé la vie. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, Rabotaï. Même à Auschwitz, aujourd'hui, c'est plus les courottes. On a dit tout à l'heure, les corottes qui sont là-bas, ces planches de bois, Akadosh Baruch Hu, il est derrière ce corona. Allez savoir si derrière toutes ces morts, toutes ces tsarottes, toutes ces soins intensifs, toutes ces massacres, toutes ces malheurs, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de hâter la Géoula du clan Israël. On sait que quand les Bnei Israël étaient en Mitzrayim, ça devait durer pendant 400 ans, on a rapproché le Ketz par le fait d'avoir intensifié les travaux forcés, par le fait d'avoir intensifié les malheurs, les douleurs, les difficultés, toutes les tsarottes qu'on avait. Et voilà, Rabotaï, que cette sarotte qui a eu, c'est ça qui a fait la Yeshua du clan Israël. De l'obscurité a jailli la lumière. Du Az Yatsamatok, de l'amertume est sortie là-bas, la douceur extraordinaire. Rabotaï, ces planches de bois qui avaient été enlevées par ces Rechaïm de nazis, c'est ces planches de bois qui ont failli les dévoiler, et c'est ces planches de bois qui finalement leur ont sauvé la vie, parce que 3 planches, ils n'auraient pas eu la force de les soulever. Mais une planche, Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, le grand architecte du monde, était derrière tout ce plan pour donner la main à ses enfants. Afilou Rabotaï, be Astoure Shebetor Astoure. Même dans l'obscurité profonde, dans l'Allemagne nazie, dans les camps d'extermination de Auschwitz, de Treblinka, de Majdanek, dans la coronavirus qu'on est en train de passer aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans le brouillard le plus profond. Mais il ne faut pas oublier qu'Hachem ou Elohim, notre Père, nous donne la main. Il envoie un homme à l'hôpital pour aller faire des biopsies. Quand il sort de l'hôpital, il est fait faucher par un automobiliste. Ce coup-là, c'est celui qui va donner là-bas la vie. Il envoie là-bas des Allemands, des SS, des Rechaïm, pour être à la recherche et recevoir un prix pour avoir retrouvé des détenus qui ont essayé de s'échapper et qui n'ont pas dormi pendant 3 jours, qui n'ont pas mangé pendant 3 jours et qui étaient là-bas à bout de force cachétique. Et voilà que ces planches de bois qu'ils ont enlevées pour essayer de les dévoiler, finalement c'est eux qui leur ont sauvé la vie par la main d'Akadosh Baruch Hu qui dirige l'humanité tout entière. Combien de tzadikim, on doit être mitrazek dans la Emouna et dans le Bitachon. Encore une fois, quand on sait que Otra Hashem qui anaftabi, que les coups c'est Akadosh Baruch Hu qui les donne, on peut servir Hashem de Simcha de tous les rats. C'est dur, Rabotaï. Mais il faut être Mekabel de Hava. Il faut se dire que c'est Dieu qui dirige. c'est lui le maître de lumière. C'est pas nous qui savons qu'est-ce qui est bien. C'est pas nous qui savons qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pas dicter à Kadosh Baruch Hu sa conduite. Bien sûr, nous, on doit prier pour sauver nos frères et leur venir à la rescousse, les sortir des soins intensifs, de se battre et déchirer tous les décrets. Mais d'un autre côté, encore une fois, à Botaï, parfois de ces coups, de cette sarotte, de cette douleur, de ces difficultés qu'on est en train de passer, à Kadosh Baruch Hu, il regarde dans le ciel. Et de la même façon qu'il y a tous les gars qui se prennent pour les rois du pétrole et pour les parrains de la mafia et pour les parrains de Wall Street, c'est moi qui dirige le monde. À Kadosh Baruch Hu, il regarde dans Rabotai et il dit, vous vous inquiétez du corona, vous inquiétez pas du corona. Inquiétez-vous d'une seule chose, c'est de vous rapprocher de Dieu malgré les épreuves, malgré les situations. Brisez votre cœur pour verser des larmes. Gardez votre Simchat Chaim. Ne vous mettez pas en colère. Ne mettez pas les autres en colère. Versez des larmes dans vos prières. Parce que vous savez qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est là. Et si on sent ça, Metzadikim, on sera zoché qu'Akadosh Baruch Hu, de ses courottes, de ce corona, il fera jaillir la délivrance du clan Israël. De cette épreuve qui est mondiale, de cette pandémie qui a concerné l'humanité tout entière, que 2/3 de la planète sont sous séquestre et qu'on ne peut plus sortir de chez nous. De là, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il va voir que tous les cœurs se tournent vers lui, que tous les gens comprennent que c'est lui le maître de l'univers. Et Az, on sera zoché bekar mamash, de voir Ve'ayadonai le melech al kol haaretz bayom ahu yadnai echad ushmo echad, que Dieu dévoilera le kavod de sa malchut et de sa majesté, qu'il effondrera tout le système de tous ces orgueilleux qui sont venus et qui ont pensé pouvoir le remplacer. La Kadosh Baruch Hu dira Enod milevado efezulato, c'est moi le maître du monde, c'est moi le maître de l'univers, et aujourd'hui j'ai décidé de dévoiler le kavod de ma majesté avec le Mashiach Tzidkenu. Qu'on le vive du mirabame ou nous amène. On va poser Bézard Hachem tout de suite quelques petites questions, mais juste avant, on a nos deux petits chanteurs qui sont là et qui vont vous chanter à Filoube Astouré, chez Betor Astouré, des paroles de Rav Nachman du Breslev, qui nous dit que même dans l'obscurité, dans les profondeurs de l'obscurité, il ne faut jamais oublier qu'Akadosh Baruch Hu se trouve à nos côtés et qu'il nous donne la main. Bézard Hachem, je vous fais tout de suite entendre, et s'il y a des questions, on les entendra avec plaisir. Tiskula mitzvot, je vous aime. Kakadosh Baruch Hu amène la réfroid chez moi à tous les malades qu'on mérite de voir Mashiach Tzidkenu Bemira Bemenu. Amen. ובוודאי גם שם נמצא השם נתברך, ואפילו בהפתרה שבתוך ההפתרה, ובוודאי גם שם נמצא השם נתברך.